Cette domination de nos différents moi détermine les étapes du développement de la personnalité humaine telle que nous les avons déjà décrites, et nous pouvons à présent les réexaminer du point de vue du gouvernement de la nature par le principe intérieur. Chez certains êtres humains, c'est le purusha physique, le moi corporel qui domine le mental, la volonté et l'action. C'est la création de l'homme physique qui se préoccupe surtout de sa vie corporelle, de ses impulsions et besoins habituels, de ses habitudes de vie, de ses habitudes mentales et physiques, et fort peu ou pas du tout de ce qui est au-delà et qui subordonne et limite toutes ces autres tendances et possibilités à cette étroite formation. On trouve pourtant en lui d'autres éléments. Il ne peut vivre tout à fait comme un animal humain, pour qui la naissance et la mort, la procréation et la satisfaction des impulsions et des désirs ordinaires, l'entretien de la vie du corps sont ses seules préoccupations. C'est là le type normal de sa personnalité. Mais il est exposé si faiblement que ce soit à des influences qui, s'il les développe, lui permettent d'atteindre à un degré supérieur de l'évolution humaine. Cédant à la pression du purusha intérieur, du purusha physique subtil, il peut concevoir une vie physique plus raffinée, plus belle et plus parfaite, et espérer la réaliser ou tenter de la réaliser dans sa propre existence et dans l'existence d'une collectivité ou d'un groupe. Chez d'autres, c'est le moi vital, l'être de vie qui domine et gouverne le mental, la volonté et l'action. Ainsi se crée l'homme vital qui ne pense qu'à s'affirmer, à s'étendre, à élargir sa vie, à satisfaire ses ambitions et ses passions, ses impulsions, ses désirs et les exigences de son ego, qui cherche la domination, le pouvoir, l'excitation, la bataille et la lutte, l'aventure intérieure et extérieure. Tout le reste est accessoire ou subordonné à ce mouvement, à cette formation et à cette expression de l'ego vital. Néanmoins, on peut trouver et on trouve parfois en lui d'autres éléments qui ont un caractère de plus en plus mental ou spirituel, même s'ils sont moins développés que sa personnalité vitale et son pouvoir vital. La nature de l'homme vital est plus active, plus forte, plus mobile, plus turbulente et plus chaotique, au point d'être souvent tout à fait déréglée que celle de l'homme physique qui a les deux pieds sur terre et possède un équilibre, une assise matérielle, mais elle est plus dynamique et plus créatrice, car l'élément de l'être vital n'est pas la terre, mais l'air. Il a plus de mouvement et moins de stabilité. Une volonté et une mentalité vitale vigoureuse peuvent s'emparer des énergies vitales dynamiques et les gouverner. Mais c'est plus par une coercition et une contrainte que par une harmonisation de l'être. Toutefois, si une forte personnalité vitale, une volonté et un mental puissant peuvent obtenir que l'intelligence résonante leur donne un appui solide et devienne leur ministre, il se crée parfois une sorte de formation énergique, plus ou moins équilibrée, mais toujours puissante et efficace, qui peut s'imposer à la nature et au milieu, et affirmer avec force dans la vie et l'action. Telle est la deuxième étape d'une expression harmonisée qui peut se produire dans l'ascension de la nature. À un stade plus avancé de l'évolution de la personnalité, l'être mental peut prendre la direction. C'est alors l'émergence de l'homme mental qui vit principalement dans le mental, alors que les autres vivent dans la nature vitale ou physique. L'homme mental tend à subordonner le reste de son être à son expression mentale propre, à des fins mentales, des intérêts mentaux et à une idée ou un idéal mental. Étant donné la difficulté de cette subordination et ses puissants effets lorsqu'elle est accomplie, il lui est à la fois plus difficile et plus facile d'arriver à une harmonie dans sa nature. Plus facile parce que la volonté mentale, dès qu'elle gouverne, peut convaincre par le pouvoir de l'intelligence raisonnable et en même temps dominer, comprimer ou réprimer la vie et le corps et leurs exigences, les ordonner et les harmoniser, les forcer à devenir ses instruments et même les réduire au minimum afin qu'ils ne viennent pas troubler la vie mentale ou faire redescendre de son mouvement créateur d'idées ou d'idéaux. Plus difficile parce que la vie et le corps sont les pouvoirs premiers et s'ils sont assez forts, ils peuvent s'imposer en exerçant une pression presque irrésistible sur le mental dirigeant. L'homme est un être mental, et le mental est le guide de sa vie et de son corps. Mais c'est un dirigeant qui est très souvent dirigé par ses suivants et qui parfois n'a d'autre volonté que celle qui lui sont imposées. En dépit de son pouvoir, le mental est souvent impuissant devant l'inconscient et le subconscient qui l'obscurcissent et l'entraînent dans la marée des instincts et des impulsions. En dépit de sa clarté, il est la dupe des suggestions vitales et émotives qui l'incitent à encourager l'ignorance et l'erreur, la pensée et l'action fausse, ou bien il est obligé de rester spectateur, tandis que la nature suit ce qu'elle sait être faux, dangereux ou mauvais. Même lorsqu'il est fort, clair et dominant, et même s'il impose une certaine harmonie mentalisée, parfois considérable, le mental ne peut unifier tout l'être et toute la nature. En outre, Ces harmonisations obtenues par une maîtrise d'un ordre inférieur ne sont pas décisives. Obtenues par une maîtrise d'un ordre inférieur ne sont pas décisives. Parce que seule une partie de la nature humaine domine et s'épanouit, tandis que les autres sont réprimées et privées de toute plénitude. Ces harmonisations peuvent être des étapes sur le chemin, mais elles ne sont pas définitives. C'est pourquoi la plupart des hommes, il n'existe pas de direction unique ni d'harmonie partielle effective, mais seulement la prédominance. Et pour le reste, l'équilibre instable d'une personnalité à moitié formée, à moitié en formation, parfois un déséquilibre et un désordre provenant de l'absence d'une autorité centrale ou du dérangement d'un équilibre partiel précédemment atteint. Tout est nécessairement transitoire, jusqu'à ce que nous accomplissions une première harmonisation vraie, qui ne sera pas encore définitive, en découvrant notre centre réel. Car l'être central véritable est l'âme. Mais cet être se tient en arrière, et dans la nature humaine en général, il n'est qu'un témoin secret, ou pourrait-on dire un souverain constitutionnel qui permet à ses ministres de gouverner pour lui, leur délègue son autorité, donne un assentiment silencieux à leurs décisions et de temps à autre seulement dit son mot, pour qu'ils peuvent toujours ignorer pour agir autrement. Il est ainsi, tant que la personnalité psychique mise en avant par l'entité psychique n'est pas encore suffisamment développée. Quand elle est assez forte, pour que l'entité intérieure s'impose à travers elle, l'âme peut alors venir en avant et maîtriser la nature. C'est lorsque ce vrai monarque vient au premier plan et prend en main les rênes du gouvernement qu'une réelle harmonisation de notre être et de notre vie peut s'accomplir. La triple transformation, la vie divine de Sri Aurobindo. I deposit this at the feet of Sri Aurobindo and the Mother, Ganga Lakshmi. Thank you.